Journée mondiale de lutte contre le sida, l'association Act Up Paris décline l'invitation de Carla Bruni-Sarkozy à une réunion des associations concernées. L'épouse du président est aussi ambassadrice du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour Act Up, c'est un membre du gouvernement qui devrait les recevoir, comme c'était le cas habituellement. Pour lutter contre le sida, nous avons besoin d'engagements tenus, des politiques, de budgets et d'actes. Pas de compassion ni de petits fours, explique l'association.
Demain, à partir de 20h, Brian Ferry, en live sur France Inter. Une soirée présentée par Vali.
Le leader charismatique de Roxy Music revient avec son nouvel album Olympia et choisit France Inter pour son grand retour sur une scène française. Un concert unique en direct et en public du studio 105.
Brian Ferry, en live. Un concert événement à suivre demain sur France Inter à partir de 20h. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bon Daniel, il y a des années que je t'écoute, hein, je t'ai écouté hier, et je trouve ça, de ta part, je suis vraiment déçu, quoi. C'est minable, c'est nul. Faire une émission sur Karachi, sur un attentat, sur des malversations présumées, hein, on ne sait pas. Alors que, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a de la neige en France. Tu vois, il y a de la neige. Et j'ai écouté tout à l'heure aux infos de 13h de France Inter, pas de Jean-Pierre Pernaut, de France Inter, que les roulettes de valise ne marchent pas sur la neige. Voilà. Donc, je suis désolé Daniel, mais ça ne va pas le faire. Voilà, c'était Mitch, à Vichy. Sous la neige.
Allô, bonjour Daniel. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un de tes collègues journalistes du 13h? Parce que je voudrais témoigner que j'ai un peu de neige devant ma maison. Là, il est 13h10. Ça fait 10 minutes que ce journal ne diffuse que des témoignages de gens qui ont de la neige devant chez eux. Alors, j'imagine que c'est un événement exceptionnel en hiver pour qu'on ne relate que ces faits-là. À part ça, je pense qu'il ne se passe rien d'autre dans le monde. Mais écoute, si tu pouvais leur transmettre mes coordonnées, je serais heureuse de témoigner que j'ai un petit peu de neige dans ma cour.
Ouais, salut, là, si j'y suis alors comme ça, on s'intéresse à l'affaire de Karachi. Bon, j'espère que vous avez de bonnes assurances, parce que, vu l'ambiance actuelle, vous n'allez pas tarder à vous faire cambrioler. Hein. Prévenez François Ruffin, il faut qu'il prenne une extension spéciale ordinateur. Allez, ciao.
Salut. À Perpignan, le prochain repère aura lieu jeudi 2 décembre à 18h30 au Lisboa Place Rigaud, comme tous les premiers jeudis du mois. Au programme, bilan et perspectives du mouvement sur les retraites.
Bonjour Daniel, je voulais signaler la parution d'un petit bouquin de Stéphane Hessel qui s'appelle « Indignez-vous ». C'est que du bonheur. Eh bien moi je suis prêt à cotiser pour sa retraite jusqu'à 150 ans. À ce monsieur, voilà. Au revoir.
Bonjour. Déjà 2 SDF morts de froid dans la rue. Ici, à Laval, en Mayenne, rue du colonel Flatters, dans le centre-ville, il y a un bâtiment de 1000 mètres carrés au sol sur 3 étages, avec un jardin privatif et pavillon pour gardiens. Vide depuis 2 ans, ce bâtiment est chauffé en hiver et gardé. Il appartient à une communauté de religieuses qui a migré ailleurs. Ce bâtiment n'est ni à louer ni à vendre. Pourtant, imaginez le nombre de logements sociaux que pourrait proposer le maire de la ville par réquisition. Mais bon, on peut toujours rêver. Touche pas à mon clergé. Salut.
C'était pour dire en fait que notre camarade Marie va passer au tribunal à Rennes vendredi prochain, le 3 décembre. Parce que son patron, en fait, l'envoie au tribunal pour contester l'existence d'un nouveau syndicat dans l'entreprise, Keolis à Rennes, qui gère les bus de toute la ville de Rennes, et qui ne supporte pas que Sud Solidaire Transport s'implante dans l'entreprise. Après avoir gazé les chauffeurs et matraqué les étudiants pendant le mouvement des retraites, Keolis s'attaque à notre syndicat, et donc il faut soutenir Marie. Vendredi prochain, le 3 décembre, à 13h30, devant la cité judiciaire.
Salut Daniel. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006. Les 2 dernières années de sa vie, elle avait de graves problèmes cardiaques. On lui a diagnostiqué une valvulopathie. Les valves du cœur étaient complètement détériorées. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Un an avant sa mort, ma mère a accepté de se faire opérer des valves du cœur. Mais rien n'y a fait. Son état s'est lentement dégradé. Fatigue, souffle au cœur. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006. Elle avait 58 ans. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine, c'était du Mediator. Elle en a pris 3 comprimés par jour pendant 10 ans. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déclare que, selon une étude de la CNAM, le Mediator aurait causé entre 500 et 1000 morts. Cette même agence, l'AFSAPS, a attendu le 30 novembre 2009 pour retirer le Mediator du marché en France, alors que les effets nocifs de la molécule sur les valves cardiaques sont connus depuis 1997.
Alors si j'ai bien compris, Sarkozy, à l'époque, pour faire rentrer des ronds pour Balladur, il a magouillé dans des ventes d'armes. Et quand Villepin, piètre personnage, est arrivé avec Chirac, ils ont fait en sorte qu'ils ne touchent pas les ronds, mais du coup, ils prenaient un risque que ça puisse tuer les Français qui travaillaient à l'étranger. Triste personnage. Et aujourd'hui, on apprend qu'en plus, Sarkozy, bien comme par hasard, il aurait menti sur la date à laquelle il a décidé d'être président de la République. Il soutenait Bush, il est pro-américain, il est instable. Et il a quand même remonté 4% dans les sondages. Ah, il y a encore du boulet. Allez, ciao vive, portez-vous bien.
Salut, c'est Jean-Marc de New York. Je me posais une question. Je me disais, on voit dans les reportages sur Karachi que finalement, en fait, les comptes de Balladur, de campagne, comme ceux de Chirac, auraient été non valides d'après la commission censée s'en occuper, mais que ça aurait été quand même accepté. Et je me demandais, en fait, si ces gens-là n'avaient pas eu leur compte validé, qui est-ce qui serait resté lors de cette élection? Qui face à qui? Voilà, ça aurait été la bonne question. Merci, au revoir.
Salut, laissez-moi vous lire le câble de la diplomatie américaine, référence 09 State 96 222 du 16 septembre 2009. Nous disposons d'informations selon lesquelles l'entreprise française et sa filiale continuent à vendre des détecteurs infrarouges refroidis et non refroidis pour une entreprise chinoise qui les incorpore dans des systèmes d'imagerie thermique. Nous croyons que cette société chinoise, Technology Company, vend ces systèmes d'imagerie thermique à des organismes de la défense iranienne. L'accès iranien au système militaire chinois d'imagerie thermique, qui repose sur les détecteurs infrarouges français de haute qualité, pourrait augmenter la menace pour les forces américaines et alliées opérant dans la région du Golfe. Nous voulons demander au gouvernement de la France d'agir afin de mettre fin immédiatement à cette activité par afin que la Chine ne puisse pas utiliser les composants français pour fabriquer des systèmes d'armement et les vendre à l'Iran, un État soutenant le terrorisme. Je précise que sur Wikileaks, d'où j'ai tiré ces sources, les noms des sociétés sont disponibles, et si vous êtes curieux, voilà une bonne raison d'aller y faire un tour.
Comme dit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, la transparence absolue, c'est un concept totalitaire. Et c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce qu'ils ont les gens là, à vouloir toujours tout savoir, lever le voile sur tous les mystères, n'a plus droit à une vie privée, quoi. Alors ça, c'est affolant, ça c'est vraiment totalitaire. Ça ne les regarde pas, les gens. Mais alors, je pense soudain, quand on passe dans les aéroports, et qu'il y a les rayons là pour voir si on ne porte pas d'armes, où la vidéosurveillance est généralisée dans toutes les villes, où les personnes qu'on met à nu lors des gardes à vue, ça c'est pas totalitaire alors. Ah ben non, c'est pas totalitaire. Parce que ça, c'est le pouvoir qui le fait. Or, le pouvoir, lui, il a le droit de tout savoir des citoyens. Mais les citoyens qui veulent tout savoir du pouvoir, ça, c'est le totalitarisme. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris ce que c'est, le totalitarisme. C'est les citoyens trop curieux. Voilà.
Et pourtant, toute la lumière, c'est totalitaire. Voilà ce qu'il se dit ces heures dernières de Hubert Védrine abrit sorte-feu. Parfois, la transparence est une forme de totalitarisme. Et il s'agit bien sûr de Wikileaks, pas de Karachi. Karachi, c'est ça qui nous intéresse. Nous, depuis 3 jours, le 3e jour aujourd'hui, on va à nouveau se pencher sur cette ténébreuse affaire de Karachi. Mais est-ce que ça marche aussi, ça, sur une affaire comme Karachi? Karachi ou Wikileaks? Wikileaks, trop de vérité, trop de transparence, et Karachi, un petit peu moins. Cette histoire se résume à ce que disaient nos ancêtres. Toute vérité n'est pas bonne à dire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est toujours partagé, et c'est cette ligne de partage qui définit une époque, une politique, une civilisation, un individu. C'est la ligne de partage entre ce que l'on cache et ce que l'on montre, entre ce qu'on dit et ce qu'on tait, entre Wikileaks et Karachi. Évidemment que la lumière allumée 24 heures sur 24 avec les caméras jusque dans les chiottes, ça peut paraître un petit peu abusif. Plus d'ombre, plus de plis, le Big Brother panoptique, bien sûr, nous voilà dans la misère pornographique. Mais le pouvoir qui enfume, qui gruge, qui dupe, qui trompe, que faire face à cela? Eh bien, faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que certains essayent très longtemps, c'est apporter un peu de lumière. Non pas peut-être toute la lumière sur tout et tout le temps, mais quand même, il y a des parts d'ombre et des parts sans doute trop éclairées dont il faut tout le temps faire le partage entre les unes et les autres, l'ombre et la lumière, le clair et l'obscur. Voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais ces deux mots, Karachi et Wikileaks, en disent long et pourraient faire l'objet tout à fait d'une dissertation pour des élèves de 6e ou de 5e. Est-ce que toute vérité est bonne ou non à dire? Voilà notre sujet d'aujourd'hui, Karachi, 3e volet, une enquête du professeur Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Amis du Nord-Pas-de-Calais, bonjour. Le repère, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, aura lieu à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie, à 18h30. Nous parlerons notamment comment on veut nous faire ingurgiter et accepter cette réforme des retraites. Allez, salut Tartous.
Ce vendredi 3 décembre, à 20h30, aura lieu notre repère lyonnais de Zabilaba, si j'y suis. C'est toujours au Cotopo, rue René-Lénaud, dans le 1er arrondissement. Et cette fois-ci, on parlera de l'agriculture urbaine, notamment avec la légumerie et les pentes vertes. À vendredi.
Salut les AMG, salut Daniel. Les amis du monde diplomatique de l'île de la Réunion se réuniront ce jeudi à 17h30 au repère des récréateurs anciennes garoutières. On débattra autour du livre de Didier Lestrade, Printemps 2015, aux éditions Maltais. On parlera de mondialisation, de grève générale, de pouvoir par le peuple, de démocratie économique. Venez nombreux.
Selon les informations qui ont été
AFP
rapportées hier à la suite d'une réunion entre les
19 juin 2009
partie civile dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions. On parle même de rétro-commissions qui auraient dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du budget, vous avez été au courant de tels accords?
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Écoutez.
Ce qui fait de cette affaire une affaire, ou une affaire d'État, c'est l'attentat de Karachi.
Il y a incontestablement un mensonge d'État de la part du président de la République.
Franchement, c'est ridicule.
On a un Parlement qui ne peut pas enquêter. Sur les affaires les plus sensibles, on a difficulté à obtenir la nomination de juges d'instruction indépendants. Et quand ils sont nommés, ils ne peuvent plus instruire. On essaie de les empêcher d'instruire.
Franchement, c'est ridicule. C'est grotesque. Écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule.
écouter.
Franchement, c'est ridicule.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base que j'y suis, avec François Ruffin.
Respecte-moi la douleur des victimes.
Franchement, c'est ridicule.
Flight number 2, arriving from New York.
Fais écouter, c'est ridicule. Écoutez.
Fabrice Lhomme, journaliste à Mediapart, co-auteur du livre Le Contrat. Donc en fait, si on récapitule sur les choses dont on est sûr ou sur lesquels il y a une très forte probabilité. Sur le financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur, par le biais de marchés d'armement en Arabie Saoudite ou au Pakistan et des rétrocommissions versées, il y a maintenant quand même un faisceau d'indices, un faisceau de preuves qui laisse penser qu'il y a effectivement eu un financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur en 1994 par le biais de ces marchés d'armement.
Ouais, il y a des, comme on pourrait dire de manière judiciaire ou juridique, il y a des indices graves et concordants qui laissent penser qu'effectivement la campagne de Balladur a été financée pour partie, bien sûr, par des contrats d'armement.
Pour autant, le lien entre le financement de la campagne d'Edouard Balladur en 1994, le fait que Chirac ait coupé les commissions et les rétrocommissions et cet attentat à Karachi, le lien entre les deux, il reste encore incertain. C'est un lien qui est établi par Claude Thévenet, l'agent de la DST. C'est un lien qui est établi par M. Menayas dans ses mémos. Mais ce n'est pas comme si on avait une somme de preuves sur ce point.
Non, là-dessus, il faut rester prudent. L'idée que ce soit Al-Qaïda qui ait commis cet acte tient de moins en moins la route. Il faut explorer d'autres hypothèses. Celle d'une vengeance sur fond de commission non payée est envisagée, mais simplement envisagée. Il n'y a pas d'élément de preuve pour l'instant.
Eh oui, on en est là et on n'en est que là, bien évidemment. C'est tentant, c'est plus que tentant, c'est très tentant de faire le lien entre les deux rives. Un de nos interlocuteurs fera cette métaphore, aura cette métaphore de comparer cette affaire à deux rives. Une, c'est le financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur. L'autre, c'est l'attentat. Y a-t-il un pont entre ces deux rives? Pour beaucoup de lecteurs, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens, c'est bien sûr, c'est évident, c'est pas si sûr. Et c'est ça notre le risque que nous qui s'empare de nous, c'est de vouloir absolument de la cohérence dans tout cela et du système de cause à effet. Bien sûr, ça prouve que parce que machin était là à telle heure, etc. Et non, c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours aussi clair. En tout cas, il faut accumuler des preuves et faire une enquête extrêmement lente et extrêmement laborieuse. Et on verra comment l'enquête, alors ça par contre c'est un élément de l'enquête, c'est qu'elle a été difficile. C'est que les commissions d'enquête qui se sont penchées sur cette affaire au niveau de l'État lui-même ont été... Il y a eu des entraves à ces enquêtes, même si les toutes récentes promesses du gouvernement et du président de la République lui-même pourraient rassurer ceux que cette affaire intéresse, on peut avoir des doutes et c'est un certain nombre de ces doutes qui seront peut-être bien levés d'ici à 16 heures dans la base si j'y suis. Respectez la douleur des victimes. Karachi Gate.
C'est rien. On nous informe vraiment sur rien. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
On se donne rendez-vous à Cherbourg devant le tribunal de grande instance.
Pour nous, c'est un peu symbolique puisque c'est l'endroit où on a rencontré Marc Trévidic la première fois, donc le 18 juin 2009, tout simplement. Et c'est là qu'il nous a expliqué que la piste politico-financière était cruellement logique. C'était celle qui prévalait, c'est celle qui nous a confirmé le 18 juin dernier en nous disant qu'elle était la seule piste crédible.
C'est-à-dire que c'est ici, il y a un an et demi, le 18 juin 2009, qu'on est passé de « c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, c'est sûr que c'est Al-Qaïda » avec le juge Bruguière à « il y a de bonnes chances pour que ça soit lié à des histoires de commission » avec le
de commission et de rétro-commission.
Donc on va aller au bistrot là.
C'est possible, il y a des chances que c'est une hypothèse, c'est une piste, etc. Mais pas de certitude. On est avec Magali Drouet, vous connaissez le visage de cette femme, qui aussi connue aujourd'hui que le visage de Sandrine Leclerc, qui sont toutes deux des filles de personnes qui ont été tuées dans cet attentat de Karachi et qui sont les auteurs d'un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle « On nous appelle les Karachi ». Et c'est Magali Drouet que ce jour-là, François Ruffin rencontrait à Cherbourg.
On va se mettre là. Alors là, vous n'arrêtez pas de lire les messages qui parviennent sur votre téléphone portable, parce que c'est une journée un peu particulière.
Oui, c'est une journée particulière parce que donc hier, on était le 18 novembre, donc on faisait une conférence de presse suite à l'audition de Charles Millon, donc qui confirmait l'existence de rétrocommission. Et pendant qu'on faisait cette conférence de presse, le juge Van Runbeek était en train d'auditionner un autre homme important du dossier, qui est M. Mazins, qui était l'ancien directeur de la Sofresa.
Alors la Sofresa, c'est un organisme qui est au fond chargé de faire des pots de vin de manière légale.
Voilà. Et cet homme a confirmé, donc en 1995, lorsqu'on lui a demandé d'arrêter le versement des commissions, il en a référé au directeur de DCN International, donc la branche de DCN chargée de la vente de sous-marins à l'exportation, qui a eu la réaction suivante en lui disant « mais ça va être très compliqué parce que ça va mettre la vie de mes salariés en danger ».
Alors la Sofresa était chargée, on avait le droit de corrompre qui on voulait à l'étranger à cette époque-là pour obtenir des marchés. Pour obtenir le marché des sous-marins Agosta au Pakistan, la France avait versé par le biais de la Sofresa, par le biais de sa société, un certain nombre de pots de vin, c'était légal. Ce qui n'était pas légal, c'est qu'il y ait des pots de vin qui reviennent dans les caisses françaises. Et donc là, vous avez le directeur de la Sofresa qui vient de se confier auprès du juge d'instruction. Et qu'est-ce qu'il a raconté ?
Il a raconté qu'il avait bien reçu ordre de messieurs de Villepin et Chirac de stopper les commissions, qu'il en avait informé donc l'ancien PDG de DCN International et que ce dernier lui aurait dit « mais ça va être très compliqué ». Parce que si on fait ça, on va mettre en danger la vie de mes personnels. Donc ça veut dire qu'en 1995, il y avait deux solutions. C'était soit on continuait de verser les commissions et on laissait partir les ouvriers sans trop de danger, soit on stoppait les commissions, mais là, il fallait les rapatrier. Parce que déjà, ils avaient l'intime conviction qu'il pouvait arriver quelque chose. Donc déjà, là, on est en 1995. 7 ans plus tard, se passe l'attentat de Karachi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un long délai entre les deux. On sait qu'il y a eu des tractations. Les intermédiaires ont tenté de négocier, de pouvoir récupérer leur argent. Et l'année 2002, en fait, est assez importante parce que c'est l'année où Mansourul Haq, donc un haut dignitaire pakistanais, un amiral, est sorti de prison. Cet homme a été arrêté pour corruption. Il a eu tous ses avoirs gelés. Et il cherche à récupérer de l'argent. Donc là, je crois qu'on doit être en décembre 2001 ou janvier 2002. L'attentat de Karachi a lieu quelques jours après. Et là aussi, c'est un élément qui peut paraître, c'est peut-être un hasard du calendrier, mais bon, il commence à y avoir beaucoup de hasards dans cette histoire, où Jacques Chirac a été élu et l'attentat a lieu quelques jours plus tard.
Vous avez rebondi sur les déclarations du directeur de la Sofresa au juge d'instruction et vous avez décidé de lancer une nouvelle plainte.
On a décidé de déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire contre Dominique de Villepin et Jacques Chirac, du fait de leur rôle d'avoir arrêté les commissions, sachant qu'il y avait encore des Français là-bas, tout en ayant la connaissance du risque qu'il y avait pour ses salariés. On dépose également plainte contre l'État français et contre deux responsables de DCN, que sont Jean-Marie Pointbeuf, donc l'ex-PDG, et Dominique Castellan, qui était le PDG de DCNI, eux, parce que, sachant qu'il allait y avoir arrêt des commissions, ils auraient dû poursuivre le contrat sans avoir de Français là-bas. Donc à partir du moment où rien n'a été fait, qu'on les a envoyés là-bas en sachant pertinemment qu'ils couraient un gros risque pour leur vie, oui, il y a mise en danger de la vie d'autrui et oui, il y a homicide involontaire.
Très émus aujourd'hui, TF1. Les familles des victimes ont réagi aux avancées de l'enquête.
18 novembre 2010.
En demandant solennellement l'audition du président Sarkozy.
Vous nous devez la vérité, vous ne pouvez plus continuer à mentir de la sorte. Nous souhaitons que vous puissiez répondre à la justice en qualité de témoin. Nous exigeons cette vérité en mémoire de nos morts, vous nous la devez.
Mais les familles réclament aussi l'audition de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, car l'Élysée aurait demandé un peu plus tard une enquête sur ces commissions.
Comment voulez-vous imaginer qu'au plus haut niveau de l'État, à l'époque, le président Chirac ait décidé de couper ses sources de financement illicites s'il n'avait pas acquis la certitude, justement, de ce financement irrégulier de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur?
Alors, Guillaume Dasquier, là, on se trouve dans une salle de rédaction du journal Libération, dont vous êtes collaborateur, mais auparavant, vous étiez rédacteur en chef de Intelligence Online.
Oui, oui, oui.
Le 12 novembre 2008, Magali Drouet, donc l'une des filles de victimes de l'attentat de Karachi, lit votre livre, qui s'appelle « Al-Qaïda vaincra ». Elle vous envoie un mail dans la foulée. Je vous lis une partie de son mail, puisqu'elle dit que c'était pour elle, c'était le point de départ dans l'enquête sur l'attentat de Karachi. « Bonsoir, je me permets de vous contacter car mon père est décédé le 8 mai 2002, lors de l'attentat de Karachi. Presque 7 ans plus tard, nous sommes toujours sans nouvelles et désespérons d'en avoir de la part de la justice et des autorités françaises. J'ai cru comprendre en lisant un extrait de votre ouvrage que vous détenez certaines informations. L'enquête a-t-elle été close? Courons-nous un risque à vouloir connaître la vérité? Je vous en prie, si seulement vous pouviez m'apporter le dixième de la vérité, la douleur serait peut-être un peu moins vive, espérant que vous apporterez une réponse à ce mail. Vous avez apporté une réponse à ce mail 3 jours plus tard, où vous dites « Je travaille régulièrement sur le sujet, en espérant publier une enquête complète sur les causes réelles de cet acte terroriste. Une fois de plus, Bruguière, donc le juge d'instruction Jean-Louis Bruguière, a offert un enterrement de première à une affaire touchant directement la raison d'État. Je serais heureux de discuter de tout ça avec vous. »
D'abord, c'était un message électronique privé. Si je devais parler publiquement du travail du juge Bruguière, peut-être que je prendrais certains égards. J'étais frappé dans ce dossier de régulièrement tenter, sur plusieurs années, de régulièrement tenter de comprendre, juste de comprendre où en était l'instruction pénale sur cet attentat. L'instruction pénale avait démarré en 2002 et c'était normal de se poser des questions.
C'est-à-dire 4-5 ans d'instruction s'écoulent sans qu'on ait de nouvelles, quoi.
Bah oui, alors, ça m'étonnait. L'attentat de Karachi, c'est l'attentat qui a tué le plus de Français. Bon sang, on a quand même en France un dispositif antiterroriste qui est important, avec des lois qui permettent d'aller très très loin, quitte parfois d'ailleurs à toucher un peu et corner nos libertés publiques. C'est quand même formidable que dans ce dossier, on ne sache rien, mais rien du tout. Alors qu'effectivement, le moindre petit loulou des banlieues qui s'amuse à télécharger sur Internet des modes d'emploi pour fabriquer une bombe artisanale que de toute façon il ne sera jamais matériellement fabriquée, lui, on peut assister à son procès, en général qui va pas très loin, 2-3 ans plus tard, etc. Et sur cette affaire, on ne savait rien. Et plusieurs fois, quand j'avais tenté de prendre contact avec des personnes qui étaient présentes à Karachi en 2002, je m'étais un peu heurté à un mur. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude, dans des notes de bas de page de certains bouquins, ou dans des débats, en faisant transparaître mon étonnement, en exprimant mon étonnement. Et ça, pendant plusieurs années, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'était un peu des bouteilles à la mer.
Donc c'est le cas dans Al-Qaïda vaincra, votre livre, ouais. Où vous laissez traîner une note de bas de page en disant « on ne sait toujours pas où en est l'attentat de Karachi ».
Oui, moi j'ai passé mon temps à le rappeler pendant ces années-là. Voilà, et donc Magali Drouet lit cette note de bas de page, m'envoie ce mail, et là, effectivement, c'est inespéré, parce que jamais... j'avais rencontré quelqu'un qui semblait intéressé à ce dossier.
Quelqu'un d'intéressé au dossier, Guillaume Dasquier, donc journaliste à Libération, auteur d'Al-Qaïda vaincra, et qui avait détecté, repéré un certain nombre de signes avant-coureurs et constaté, comme il vient de le dire, que l'instruction pénale était en panne. Il ne faut pas oublier que tout ça se passe en arrière-fond, un combat féroce entre les voraces et les coriaces. Les voraces, Sarko Balladur, et les coriaces, Villepin-Chirac, ou le contraire, le Vorace et les Coriaces, vous pouvez... Mais en tous les cas, c'est ce combat-là qui continue aujourd'hui, même si certains se sont un peu retirés, mais ils restent bel et bien au milieu du ring, face à face, Villepin, Sarko, Vorace et Coriaces. Et ça, c'est très important pour brouiller les pistes, et peut-être aussi pour freiner les choses, faire que les dossiers n'avancent pas tellement, que les choses tombent un petit peu en panne. En tous les cas, Dasquier avait repéré un certain nombre de signes avant-coureurs.
Dans le courant de l'année 2002, il y a un certain nombre de signaux d'alerte, c'est-à-dire des événements un peu troublants, des menaces, enfin qui se situent dans l'environnement de la DCN. Parmi les signaux d'alarme, il y a plusieurs choses. Donc il y a cet épisode de l'épouse du chargé d'affaires français en Afghanistan qui se rend avec sa voiture à l'ambassade de France à Islamabad et trouve sous sa voiture une mine, enfin un système d'explosifs militaires qui n'a pas été amorcé, ce qui ressemble vraiment à un avertissement. Mais il y a aussi des faits troublants à Karachi même. Une personne qui s'occupe de gérer tous les déplacements et toutes les questions de sécurité, qui est victime d'une sorte d'attaque assez curieuse, au cours de laquelle on lui dérobe une mallette avec tous les documents relatifs aux déplacements et aux habitudes du personnel français de DCN, mais on lui vole rien d'autre.
C'est-à-dire que cet homme, qui est chargé un peu de la logistique des Français à Karachi, et comme par hasard, sans qu'il y ait eu de violence, il se fait voler justement la mallette où on a tous les déplacements des Français, les coordonnées des salariés français, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce qui peut être nécessaire à la préparation d'une attaque.
Oui. Des petits épisodes comme ça, il y en a plusieurs. On a retrouvé également un ancien responsable d'une société de sous-traitance qui, en 2002, à Karachi, travaillait pour le contrat des sous-marins avec les Français. Dans les jours qui précèdent l'attentat, cet homme-là dit que des contacts au sein des services pakistanais lui ont conseillé de se tenir à l'écart des équipes françaises, que ça pourrait être dangereux, que voilà, il ne devait pas trop se déplacer avec eux.
Enfin, ce que vous dites là, ça serait un attentat qui aurait été pensé à l'avance avec des avertissements, que la France ne se serait pas pliée aux avertissements et que, du coup, la menace serait devenue réalité.
Alors, c'est une hypothèse. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est quand j'étais à Karachi, donc un jour, je me trouve dans le bureau du responsable de la police, qui, en 2002, était le chef des enquêtes sur l'attentat. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait de toutes les informations qu'ils vous ont communiquées, les Français ? Sur l'ensemble des alertes, des signaux peut-être avant-coureurs qu'ils avaient reçus dans les mois qui précèdent l'attentat. Et je vois le type dans son fauteuil vraiment changer de mine. Et il me dit « mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Nous, on nous a jamais rien dit, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. » Et il a fallu que je lui montre des papiers qu'on a, enfin, avec la discussion s'éternise sur ce point-là, pour qu'il convienne qu'il y avait bien eu des signes avant-coureurs, des alertes, et que ce sont les contacts français qui n'ont pas transmis les informations aux Pakistanais.
C'est-à-dire que même après l'attentat du 8 mai 2002, tous ces signes avant-coureurs, les autorités françaises, à la place de les rendre publics, d'aller dire à la police pakistanaise, regardez, on a déjà eu un explosif sous la voiture d'une épouse de diplomate. Il y a eu ce gars-là qui s'est fait piquer tous ses documents dans lesquels il y avait les allers-retours des Français, quand est-ce qu'ils se déplaçaient, ainsi de suite. À la place de rendre ça public, ils n'en disent rien à la police pakistanaise et ils en disent encore moins quelque chose à l'instruction en France. Tout ça, c'est caché.
Là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils ne transmettent pas, les Français ne transmettent pas des informations importantes pour l'enquête aux Pakistanais qui mènent l'enquête. C'est comme si les Français étaient très satisfaits que, bien vite, on puisse dire que c'est un acte de terrorisme aveugle, et qu'on n'aille pas chercher plus loin.
Après 3 mois et demi d'enquête, la police pakistanaise vient de rendre publique une série d'arrestations.
France 3.
7 militants islamistes, dont l'un serait le cerveau du groupe responsable de l'attentat.
19 septembre
2002. Il s'agit du groupe du djihad al-Alami. Nous savons aussi avec certitude qu'ils sont impliqués dans l'attentat contre le consulat américain.
En tout, 19 des plus importants membres du groupe islamiste djihad al-Alami sont aujourd'hui entre les mains de la police pakistanaise.
Alors, Guillaume Dasquier, vous êtes l'un des rares journalistes français, je pense, à vous être rendu à Karachi pour mener une enquête sur place et pour essayer de comprendre ce qui s'était passé le 8 mai 2002.
Quand je me trouvais à Karachi, c'était le moment où on venait de relaxer deux personnes, Asif Sahir et Mohamed Sohel, qui avaient été arrêtés assez vite début 2003, quelques mois après l'attentat, et qu'on avait présenté comme presque les petites mains de cet attentat, ceux qui avaient rangé l'explosif dans la voiture et qui avaient, disons, apporté la touche finale au plan macabre.
Des islamistes. On avait arrêté deux islamistes,
oui.
Et on avait dit, voilà, c'est une branche de Al-Qaïda pakistanaise.
Alors, quand je m'y trouve en 2009, ces deux personnes viennent d'être relaxées. Je peux prendre connaissance de leur dossier. En fait, je découvre que c'est quand même deux pauvres petits gars qui ont eu, certes, des allégeances avec des groupes islamistes, mais à Karachi, enfin, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et par ailleurs, à cette période, il y a notamment, et c'est ça qui m'intéressait, le procès d'un troisième homme qui a été, lui, arrêté plus tard et qui est considéré comme le cerveau de l'opération elle-même. C'est-à-dire pas le grand ordonnateur qui a commandité l'attentat, mais celui qui l'a, disons, coordonné l'opération. Et son procès se déroule devant la cour d'appel antiterroriste de Karachi. Et devant cette cour, les juges sont extrêmement sévères sur la manière dont a été conduite l'enquête, en disant en substance que les preuves ont été manipulées, les aveux de témoins ont été extorqués sous la torture. Enfin, c'est terrible pour la justice pakistanaise. Et donc, cet homme-là est lui aussi relaxé.
Donc les trois hommes qu'on a désignés suite, oui, à l'attentat de 2002 comme étant les petites, oui, mains et l'orchestrateur de l'attentat, oui, sont 6 ans plus tard relaxés.
Enfin, parmi les multiples contradictions soulevées lors de ces audiences, il y en avait qui étaient quand même sidérantes sur des points matériels essentiels, c'est-à-dire sur l'explosif. On voyait bien que les enquêteurs pakistanais avait relevé la présence de telle ou telle substance, en particulier du nitrate d'ammonium, chez certains suspects. Mais le problème, c'est que les expertises faites sur le lieu d'attentat déterminaient de façon définitive que ce n'est pas cet explosif-là qui a été utilisé, mais que c'est un explosif militaire avec une composition qui emprunte à celle du TNT, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que mentionnent les policiers pakistanais.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des ports armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Maître Thibault de Montbrial, vous êtes avocat de 6 blessés. Dans cette affaire Karachi, ce qui la rend compliquée, c'est qu'il y a 2 affaires, en fait. Il y a une première affaire, c'est un attentat, sur lequel, au fond, pour l'instant, l'enquête nous amène à savoir peu de choses. On ne sait pas qui sont les exécutants et on ne sait pas qui sont les commanditaires. Et à l'autre bout, il y a une deuxième affaire. Cette affaire, c'est sur la signature du contrat. Et où là, en revanche, les choses s'éclaircissent plus rapidement C'est comme si, parce qu'on ne peut pas le prendre par le bout de l'attentat, on revenait en arrière et on reprenait l'affaire par le bout français.
Alors vous avez raison de souligner qu'il y a vraiment deux affaires dans cette affaire. C'est comme deux rives qui se feraient face, et la question étant de savoir s'il existe un pont. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a simplement une interrogation majeure qui est celle de mes clients, qui est de savoir pourquoi est-ce que sur la rive française, des éléments propres au contrat ont été dissimulés aux juges qui enquêtaient sur l'autre rive, c'est-à-dire la rive de l'attentat au Pakistan. Peut-être que c'est simplement pour éviter un embarras sur des questions de financement politique qui n'auront finalement rien à voir avec cet attentat. Peut-être pas. Si la réponse est non et qu'ils en sont convaincus, ce qui est possible, eh bien ils en prendront acte. Il n'y a aucune volonté, et ça c'est absolument crucial de bien le comprendre, il n'y a aucune volonté des blessés de l'attentat de Karachi de stigmatiser a priori tel ou tel homme politique français ou parti politique français. Ce qu'ils veulent simplement savoir, c'est pourquoi on leur a dissimulé ces éléments depuis tant d'années, cette ingéniosité à la dissimulation ne pouvant que susciter leur interrogation et peut-être leur scepticisme. Mais s'ils découvrent que finalement la dissimulation c'était uniquement pour pas qu'on sache qu'il y a parfois quand même, aux surprises, un peu de financement illicite dans la vie politique française, et notamment par le biais de contrats industriels, et notamment par le biais de contrats d'armement, eh ben dont acte. Il n'y a pas une vérité qu'ils préfèrent à l'autre.
C'est un peu comme si on avait, pour cacher un éventuel financement occulte de la vie politique française, là de la campagne d'Edouard Balladur en 1995, où là, il y a des indices qui sont de plus en plus concordants, on va dire, mais comme si pour cacher ça, on avait tout masqué et que du coup, il y avait une suspicion généralisée, comme si en voulant cacher une petite affaire, une affaire d'argent, enfin une affaire à laquelle on est malheureusement habitué, puisqu'il y a eu les lycées d'Île-de-France, il y a eu les fruits de bouche de la mairie de Paris, il y a eu l'affaire Urba, tous les camps ont été arrosés par des affaires d'argent, et bien en voulant cacher cette petite affaire, on faisait naître une suspicion généralisée et qu'on se demandait si finalement il n'y avait pas un lien avec un attentat qui là est beaucoup plus grave, puisqu'il y a eu du sang versé.
Ce que vous dites est possible, c'est une des hypothèses, et encore une fois, la seule chose que souhaitent mes clients, c'est d'avoir une réponse à ces questions. Et pour ça, il faut laisser travailler les juges. On a la chance d'avoir deux juges qui sont des juges d'instruction qui font honneur à leur fonction, qui font honneur à la magistrature et qui font honneur à la démocratie française. Donc, c'est une chance. Laissons-les travailler pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Et après, ne vous inquiétez pas, vous nous entendrez.
Ministre de la Défense comme moi-même,
Nicolas Sarkozy,
sommes décidés à ce que tous les documents qui seront demandés
22 novembre 2010
soient communiqués en temps et heure. À ma connaissance aujourd'hui, pas un document n'a été refusé. Voilà. Et je n'entendrai pas une polémique qui n'a pas lieu d'être. La justice est saisie, qu'elle fasse son travail. Naturellement, l'État aidera la justice en lui communiquant tous les documents dont il aura besoin, dont elle aura besoin, la justice. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Tout le reste, on voit bien que ce n'est rien d'autre que de la polémique.
Voilà, ben voilà qui va rassurer Monsieur Cazeneuve, qu'on va rencontrer maintenant. Concernant ce qui vient d'être dit par le président de la République, il faut quand même rappeler que le 26 mars 2010, récemment, Christine Lagarde a refusé que les fonctionnaires de son ministère soient entendus par la mission d'information. Elle a dit « Il ne m'est pas possible de donner une suite favorable à la demande d'entendre les fonctionnaires ayant eu à travailler sur le contrat relatif au sous-marin Agosta ». C'est une histoire évidemment passionnante qui dévoile énormément de choses sur les mœurs de la politique française et qui peuvent se ramener à une phrase prononcée par François Léotard qui a dit il y a quelques jours, le 24 novembre, « Une démocratie se juge à la qualité du contrôle parlementaire sur le gouvernement. »
Monsieur Cazeneuve, vous êtes député maire de Cherbourg. On est dans votre bureau ici à l'Assemblée nationale. En juillet 2009, vous êtes à l'initiative de la création d'une commission d'information sur les circonstances entourant l'attentat de Karachi. Alors, la création de la mission d'information va se faire sans difficulté ?
Non, ce sera très difficile parce que très rapidement, on nous sort l'ordonnance qui va bien, qui dit que le Parlement ne peut pas enquêter sur des sujets sur lesquels une procédure judiciaire est en cours, que compte tenu de la sensibilité du sujet et de la volonté qu'auraient les pouvoirs institués, c'est-à-dire le Parlement avec sa majorité et le gouvernement, de laisser le juge faire son travail, on ne saurait le perturber en créant une mission d'information. Une fois que ces arguments nous arrivons à les contredire avec suffisamment de pertinence. Là, le président de l'Assemblée nationale nous dit non, non, tout ça n'est pas possible, c'est une affaire de la Commission de la Défense, à laquelle éventuellement pourrait s'adjoindre la Commission des Affaires étrangères. Le président de la Commission des Affaires étrangères refuse.
La création a posé des difficultés, mais ensuite les auditions vont se dérouler sans entrave.
Très vite, des tensions sont apparues entre le gouvernement et la mission, et au sein de la mission, entre la majorité et l'opposition. Bon. D'abord parce que le gouvernement n'a pas communiqué les documents que nous lui demandions, et je dirais même qu'il a usé de 1000 stratagèmes pour ne pas le faire. J'ai demandé toute une série de documents, et à ce moment-là, on a vu tout un stratagème se mettre en place, avec un gouvernement qui n'a pas répondu pendant plusieurs semaines. Et donc nous avons été obligés de conduire nos investigations à partir des seules auditions auxquelles nous procédions.
C'est-à-dire, le gouvernement ne vous a presque rien transmis ?
Quasiment rien. Le Quai d'Orsay a dû me transmettre une revue de presse franco-anglaise. C'était une première que de voir le gouvernement déclassifier les journaux. Le ministère de la Défense a dû nous transmettre entre octobre et décembre une chronologie des faits et rien d'autre. Et nous n'avons rien obtenu quasiment du ministère des Finances. Et nous avons même reçu une lettre du ministre des Finances qui s'opposait à l'audition des collaborateurs de Bercy sur ce sujet.
C'est-à-dire une lettre de Christine Lagarde qui refuse que les fonctionnaires du ministère des Finances soient entendus par votre mission d'information.
Il n'y a aucun document déclassifié, très peu de documents transmis, des documents qui n'ont aucun intérêt. Et troisièmement, le gouvernement refuse de nous autoriser à procéder à l'audition de ses collaborateurs. Voilà ce qui s'est passé. Et lorsque nous avons fini notre travail, sans aucune coopération du gouvernement, et que le juge d'instruction, dont on a dit vouloir faciliter la tâche, demande à obtenir le verbatim de nos auditions, alors là, on lui oppose de nouveau la séparation des pouvoirs et le secret des délibérations parlementaires.
C'est-à-dire que même
il y a un véritable dévoiement du principe de séparation des pouvoirs qui vise à empêcher à la fois le travail du juge et le travail de contrôle du Parlement pour ne protéger qu'un pouvoir institué, qui est le pouvoir exécutif.
Donc aujourd'hui, on refuse que ces auditions soient transmises au juge.
C'est la position prise la semaine dernière par le président de l'Assemblée nationale et que je condamne.
Le juge d'instruction Marc Trévidic, qui enquête sur l'attentat de Karachi, est bloqué.
BFM.
À trois reprises, il a demandé à avoir accès aux documents de la mission parlementaire.
10 novembre 2010.
Plus de 60 personnes auditionnées, comme l'ex-premier ministre Édouard Balladur, suspecté d'avoir touché des rétrocommissions pour financer sa campagne en 1995. Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, refuse de transmettre ses pièces à la justice au nom de la séparation des pouvoirs. Et cet après-midi, il tente de se justifier.
L'Assemblée nationale n'a strictement rien à cacher. J'ajoute que le juge peut auditionner tous ceux ou celles qu'il voudrait auditionner, d'autant que tout est dans le rapport.
Et comment vous expliquez qu'à la fois, au moment de la création de votre mission d'information, pour obtenir des documents, pour obtenir des auditions de fonctionnaires, et enfin pour transmettre les auditions au juge d'instruction, comment vous expliquez qu'à toutes les étapes de votre mission d'information, il y a eu des obstacles, des entraves qui étaient posées?
Je l'explique par une raison très simple, c'est que le pouvoir exécutif est fébrile. On ne peut pas nous dire à la fois, ce sujet-là est un sujet d'une totale clarté, tout est explicable, et ne pas immédiatement créer les conditions de la communication des documents qui permettraient de prouver que tout cela est transparent. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une fébrilité totale de l'exécutif face au sujet.
Pour conclure, quand on voit la difficulté que vous avez eue pour créer cette mission, pour entendre des témoins, pour vous faire transmettre quelques documents et ensuite pour pouvoir faire lire ces auditions au juge d'instruction, on se dit que pour ce juge d'instruction-là, justement, pour qu'il puisse faire la lumière sur cette affaire et que justice soit rendue, il y a du chemin.
Et vous avez sans doute remarqué que lorsque le juge Van Ruynbeck prend une ordonnance par laquelle il se déclare compétent pour instruire la plainte des familles, immédiatement le parquet, qui est aux ordres, fait appel de cette ordonnance pour empêcher le juge d'instruire. Donc on a un Parlement qui ne peut pas enquêter. Sur les affaires les plus sensibles, on a difficulté à obtenir la nomination de juges d'instruction indépendants. Et quand ils sont nommés, ils ne peuvent plus instruire. On essaie de les empêcher d'instruire. Vous voyez, le parcours du combattant, il faut, pour aller à son terme, une sacrée santé.
Aussi bien le président de la République que le Premier ministre, que moi-même,
RTL,
avons dit les documents.
23 novembre 2010.
Qui pourraient intéresser les juges d'instruction, il y en a plusieurs qui travaillent en ce moment.
Alain Juppé, ministre de la Défense.
Seront évidemment déclassifiés. Il y a des enquêtes en cours, c'est à la justice de faire toute la lumière et toutes les demandes seront examinées et honorées dans les conditions que je vous ai dites.
Oui. Ouais, ouais. D'accord. Bah écoutez, moi je vous force pas la main. Je veux pas vous harceler. D'accord. Si vous pouviez témoigner, ça remettrait peut-être les pendules à l'heure. Enfin, ça offrirait un autre éclairage. Ouais, d'accord. Bah écoutez, vous hésitez pas, vous me rappelez. D'accord. Au revoir. Je viens de recevoir un coup de fil, là. C'est le problème de ces enquêtes à la radio. Il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas parler devant un micro, qui ne peuvent pas parler ouvertement, publiquement, et qui pourtant connaissent le dossier de près. Là, dans le parc Monceau, entre deux rendez-vous avec les victimes, l'intime conviction là, de mon interlocuteur, ça rejoint un peu la mienne, mais mon intime conviction à moi, ouais, tu t'en fous. Bon, enfin, je vais te la donner quand même. C'est qu'en gros, sur l'histoire de corruption en 94-95, liée aux deux contrats, contrat Agosta avec le Pakistan, contrat Sawari 2 avec l'Arabie Saoudite pour financer la campagne de Balladur, là il y a quand même des indices qui s'accumulent, qu'il s'agisse du second réseau d'intermédiaires qui apparaît à la dernière minute dans ces contrats, des 10 millions de francs qui se retrouvent dans 4 sacs enregistrés par le Crédit du Nord pour le compte de campagne d'Edouard Balladur, un compte qui va être rejeté dans un premier temps par le Conseil constitutionnel, qu'il s'agisse ensuite de l'ouverture de sociétés offshore avec manifestement l'accord du ministre du budget, porte-parole de la campagne d'Edouard Balladur à l'époque, Nicolas Sarkozy. Enfin, y a un certain nombre d'indices qui s'accumulent concernant le lien entre ces contrats d'armement et le financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur. En revanche, qu'est-ce qui prouve un lien avec l'attentat qui va se dérouler 7 ans plus tard à Karachi le 8 mai 2002? Il n'y a pas grand-chose. Alors il y a le rapport Nautilus qui fait ce lien, mais c'est juste un rapport parmi d'autres, on pourrait dire. Et il pourrait très bien s'agir d'un attentat djihadiste, comme il s'en produit à Karachi, apparemment, par paquet de 10. Quoi. En plus, dans un contexte de guerre, où la France est quand même impliquée dans la guerre en Afghanistan, il pourrait très bien s'agir d'un attentat djihadiste. Et il n'y aurait pas forcément de lien entre les commissions, les rétrocommissions, et cet attentat. En tout cas, pour moi, le lien entre cet attentat et les commissions, rétro-commissions versées ou non versées justement 7 ans plus tôt, il n'est pas pour l'instant manifeste du tout. Mais, on a tellement tout caché aux victimes, le dossier a si peu avancé, on a si bien planqué par exemple le rapport Nautilus et d'autres pièces, que le soupçon s'est éveillé et tout paraît maintenant aujourd'hui suspect. Il y a de la suspicion partout. Est-ce que le juge Jean-Louis Bruguière, il a vraiment enquêté? Est-ce que l'Élysée n'a pas cherché à tout cacher dès 2002? On nous cache tout, on ne nous dit rien, parce que vraiment, on a tout caché, on n'a rien dit pendant 5-6 ans.
Écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Écoutez, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Qui peut croire à une fable pareille? Puis si vous avez des éléments, donnez-le à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus?
Bah oui. Merci à toutes et à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Magali Drouet, Thibaut de Montbrial, Fabrice Lhomme, Guillaume Dasquet, Jean-Jacques Candelier et Bernard Cazeneuve. Merci, je rappelle à nouveau les bouquins dont il était question. Le contrat de Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme chez Stock et On nous appelle les Karachis de Magali Drouet et Sandrine Leclerc chez Fleuve Noir. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et n'oubliez surtout pas, jeudi prochain, le 9 décembre à 15h, nous partons pour le Congo, la République démocratique du Congo, le Kivu et le Katanga. Réclame.
Hé, le loup, t'as
pourrait pas être aussi fort que nous. Voilà notre secret, le loup. Manger 3 produits laitiers par jour. En plus, c'est facile. Bah oui, prends un yaourt le matin, un verre de lait au goûter et un bon morceau de fromage le soir. C'est quand même pas compliqué, le loup. Paf, paf, paf. Et 3 produits laitiers pour le loup.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de France Agrimaire et du CNIEL.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste?
Le recommandé qui revient chez toi une deuxième fois.
Comment ça?
Un peu comme un pélican, si tu préfères.
Un pélican?
Oui, il vole jusque chez toi, flap, 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 avec ses grandes ailes. Mm. Et puis une fois arrivé, il sonne. Bon, t'es pas là. Bah, il repart. Mais si tu l'appelles au 3631, flap, 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 il revient, le pélican.
Au 3631?
Oui, flap, 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 le recommandé.
Si vous n'avez pas réceptionné votre recommandé au premier passage, appelez le 3631 avant 14h en semaine ou midi le samedi et la Poste vous le représentera gratuitement le lendemain. Numéro non surtaxé.
Et c'est pas tout!
La Poste, la confiance donne de l'avance.
Novembre 2010, Stéphane et Chloé s'interrogent.
On fait quoi avant Noël?
Je peux faire une suggestion?
Du 23 novembre au 13 décembre, profitez d'1 million de billets TGV à petit prix pour des voyages du 26 novembre au 16 décembre. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Lunéa et Intercité.
Super, prendre des billets pour la campagne!
Plus que 999 996 billets TGV à petit prix.
Et on va voir la mer à Saint-Malo.
Plus que 999 994
billets. Ah ouais, et après on part au ski avec les copains.
Plus que 999
994.
Non mais c'est
fini, oui.
SNCF.
France 2, la vie quotidienne, c'est pas tous les jours facile.
Tu déjeunes pas, Minou?
Si, 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 mais je te rappelle que je suis homme au foyer, moi je fais pas grève.
C'est très important de manger le matin.
Plus tard, là faut que je lance une lessive.
Faut que t'as pas d'inter-organiser, hein. Non, sérieux, sinon tu vas être vite débordé.
Oui,
hein.
Denis, faut que tu fasses des listes.
T'as pas des listes à faire, toi, à ton lycée, là?
Fais pas ci, fais pas ça, ce soir à 20h35 sur France 2.
Voilà, non, je répète, n'oubliez pas, jeudi prochain, 9 décembre, départ pour le Congo, République démocratique du Congo. On commencera par le Kivu, le Nord Kivu, et puis ensuite on descendra au Katanga. Il est 16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour la Bastille. J'y suis, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin, salut.
Sur les routes de France, la neige et les perturbations qui vont avec se déplacent vers l'ouest de la France. La situation revient peu à peu à la normale dans la vallée du Rhône, où la circulation des camions vient à nouveau d'être autorisée. Le point à Rosny-sous-Bois avec Oana Favnec.
La plupart des poids lourds ont repris la route entre ce matin et cet après-midi dans le sud-est. Ils ont quitté Nîmes-Marguerite sur la 9, où environ un millier de véhicules ont été stockés cette nuit, ou encore Mornas sur la 7 en direction de Lyon. Mais il reste encore environ 3000 poids lourds stationnés dans le massif alpin. Des interdictions sont toujours en vigueur dans la région pour les transporteurs routiers sur l'A40, l'A43, l'A48 et l'A49 et toute l'A41 entre Lyon et le tunnel du Fréjus ou encore Bourg-en-Bresse et Grenoble. Des interdictions qui devrait être levé en fin de journée. Dans l'ouest de la France, d'autres véhicules sont toujours orientés vers des aires de stockage. La N12 bretonne est encore interdite aux camions de marchandises entre Saint-Brieuc et Brest, ainsi que la N13 en Basse-Normandie.
Oana Favnec à Rosny-sous-Bois. Au centre de Lyon, la circulation des bus reprend petit à petit. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en revanche, est toujours fermé. La vigilance orange à la neige et au verglas reste de mise dans 9 départements. Et la vague de froid paralyse une grande partie des transports européens, de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Italie. Il y a des retards sur les trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles. Les aéroports de Gatwick au sud de Londres et de Genève sont fermés. Tout le nord-ouest de l'Italie est couvert de neige, ce qui ralentit la circulation. En Pologne, la vague de froid a fait 8 morts ces 2 derniers jours. L'homme mort lundi soir à Colombes après avoir reçu 2 décharges de pistolet électrique Taser est mort d'une asphyxie aiguë et massive. Ce sont les conclusions de l'autopsie effectuée ce matin. Pour l'heure, il n'y a pas de cause certaine, unique et absolue du décès, précise le parquet de Nanterre. L'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre semble donc en cause, mais l'action du taser n'est pas à exclure, selon le médecin légiste, qui dit attendre le résultat d'examens complémentaires. Parmi les prochains chantiers du gouvernement, la réforme de la médecine de proximité. En déplacement en Normandie, Nicolas Sarkozy en a fait une priorité pour 2011. Les premières décisions seront prises avant la fin de cette année. La réforme reprendrait notamment l'une des propositions du rapport de l'ancienne ministre de la Santé Elisabeth site Uber, la modulation du paiement de la consultation en fonction de l'acte pratiqué. Alors que le site Wikileaks continue d'égrener les 250 000 documents diplomatiques américains en sa possession, Hillary Clinton s'efforce de limiter les dégâts. Au sommet de l'OSCE qui s'est tenu aujourd'hui au Kazakhstan, la secrétaire d'État américaine a discuté en aparté avec la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre italien Silvio Berlusconi, le ministre russe des Affaires étrangères et le vice-premier ministre britannique, pour leur dire en substance que les télégrammes publiés ne représentent pas forcément le point de vue des États-Unis. La Cour pénale internationale demande à la République centrafricaine d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir. Il doit se rendre aujourd'hui dans ce pays. Omar el-Béchir est accusé d'avoir orchestré le génocide au Darfour. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Plus 3 euros par mois pour les abonnés d'Orange. Ce sera la répercussion à partir du 1er février prochain de l'augmentation de la TVA sur les offres Triple Play qui combinent téléphonie mobile fixe et télévision. 3 euros maximum, précise l'opérateur.
Tous les jours, à partir de 10.
Ah mais non, c'est cassé!
Non, c'est pas cassé, ça va marcher.
Ah bon? Salut Colin.
5-7 boulevard.
Ah bah ça y est, salut Mauduit.
Sur France Inter.
Ça déconne la machine.
Allez, dites-nous Colin, qui sera chez Bunel ce soir?
Eh bien ce soir à 17h, François reçoit le dessinateur et cinéaste Enki Bilal.
Le dessinateur de Partie de chasse en Sologne?
Ah non, ça c'est Marc Dorcel, c'était juste Partie de chasse lui.
Ah, excusez-moi, c'est cassé! C'est cassé! Et puis nous après?
Et puis nous à 18h, nous allons visiter le château des Tuileries.
Un palais disparu?
Oui. Danton, Georges Danton.
5-7 boulevard.
Georges Danton.
À retrouver tous les jours.
C'est cassé. Réparer la machine.
Du lundi au vendredi à partir de 17h.
France Inter, partenaire des grandes voix, présente Patricia Petitbon en concert au Théâtre des Champs-Élysées le 13 décembre. Au programme, des airs d'opéra de Gluck et Mozart avec l'ensemble Il Giardino Armonico sous la direction de Giovanni Antonini. Retrouvez Giovanni Antonini dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de Frédéric Lodéon et du Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à feuilleter cet album, Les clés du classique, publié par Deutsche Grammophon. Un beau résumé des pièces les plus connues de notre grand répertoire. Et puis nous irons par la pensée à Stein, parce qu'il y a un festival classique dans cette ville de Seine-Saint-Denis, du 3 au 18 décembre, où une femme chef d'orchestre fait merveille. Elle s'appelle Zaya Ziwani, et je parlerai aussi de son livre, La chef d'orchestre. Et nous entendrons David Frey, ce disque que nous aimons beaucoup. David est venu nous en parler il y a peu, mais enfin, ce n'est pas une raison pour oublier cet enregistrement qui avait vraiment beaucoup de qualité. Pour commencer, tirer de ce bel album jaune, Les clés du classique, une petite valse qui a eu pour inspiration un petit animal, on ne sait pas si c'est un teckel ou un caniche, enfin bref, un petit chien qui courait après sa propre queue, et on dit que Frédéric Chopin en aurait été inspiré pour cette sixième valse dite du petit chien ou encore valse minute. Thank you. Frédéric Chopin, 6e valse en ré bémol, interprété par Tamash Vachary. Et autre pianiste, grande pianiste venue d'Argentine, elle, Martha Argerich, Vachary est d'origine hongroise. Nous allons entendre Franz Liszt. L'année prochaine, c'est l'année Franz Liszt, après l'année Chopin et Schumann, et d'autres compositeurs moins célèbres, mais enfin bon, on en parle aussi. Et Franz Liszt, représenté dans cet album par son premier concerto, qui a un peu sidéré les auditeurs, les premiers, parce que c'était assez impressionnant. Et évidemment, sortant des sentiers battus, mais ce grand battleur d'estrade qui était Franz Liszt n'avait peur de rien. Il avait un tel charisme, une telle force, une telle virtuosité. Il fallait bien une femme pour l'incarner, la grande Martha Argerich, donc.